Bonjour, vous êtes sur Fréquence Mistral dans l'émission Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser les volets fermés ou de laisser entrer la lumière. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Je laisse toutes mes affaires portées à vos côtés. Je les avais rangées dans ma valise pour vous rejoindre à la frontière des frissons, à la lisière de nos doigts. Pluie douce sur la tête d'oreiller, la lumière du matin a lavé mon chagrin. Quelqu'un d'autre viendra peut-être la respirer, quelqu'un d'autre viendra peut-être vous respirer. Je vais briser le carillon du temps inspiré à nos fenêtres et plus éloigné, je m'en vais goûter la saveur de la liberté de vous aimer sans fin. La seule chose que je garde, votre sourire en la vie sous la pluie. L'amour jamais brisé, cette richesse inépuisable qui s'active dans mon ventre à chaque fois que je vous sens vivante. Au fond du chaud de mon être, quelqu'un va venir vous embrasser. Vous serez bientôt éveillé, pluie douce sur la tête d'oreiller. La lumière du matin a lavé nos poisons de nos chagrins. Et quelqu'un d'autre viendra peut-être respirer la saveur de la liberté de vous aimer enfin. quelqu'un d'autre viendra vous libérer, corps, esprit, en harmonie. Alors, je m'efface, quitte la surface, gagne les profondeurs, là d'où je viens. Je ne suis ni celui qui fait vibrer, ni celui qui est. Je suis feuille parmi les feuilles, une infime parcelle de votre temps de vie, parcelle de temps. Ce temps qui marque de son empreinte les rides de mon visage, où les naufragés de la nef des fous, des quelques années à protéger ce bel enfant, de cœur à corps nu, dans le grand fauteuil du grenier vanté par le souffle de l'été, venu de la grande plaine parsemée de forêts. Des sillons de terre sur mon visage, effleurés des doigts, plumes d'oiseaux, qui sont peut-être les miens, peut-être les tiens, sont-ils mêlés de nos enfants, ce crève-cœur, ou le sourire des granges ou déjà notre héritage? Alors goûte l'alchimie subtile du parfum sur la peau. Divin dehors, poison dedans. Divin dehors et poison dedans. Alors, serre-toi contre moi et ouvre-toi au monde, à nouveau tenter le diable et sa beauté. Apôtre de la témérité, ma belle dévolue à la vie, au jardin de pivoine, aux perles d'intention, à la joie des mantanées, à la vieille dame sans regret, à la belle dame sans regret, à la force, à la beauté du néant quand tu n'es pas dedans, à l'envie de la vie. Au temps qui marque son empreinte, les souvenirs comme balises, la saveur comme valise. Parti, voyager dans l'infini, et ton goût sur ma peau. Ce parfum reconnu cette première fois-là, aujourd'hui puis chacun de mes autres jours, aussi de tes jours, de nos jours, mes yeux perleront sur toi. Mes yeux perleront sur toi, apprendront à accepter l'issue même si je tisse mes mots quand tangue mon esprit, alors mords mes lèvres, retiens ma langue jusqu'à l'aube de mon dernier jour sur cette belle putain de terre, qu'un sens ait cet esprit, juste avant la pluie chaude des mots, juste avant que sonnent les mots, juste avant que les mots sonnent, qui marque le corps, le cœur et la main phare, indique le champ des possibles, éclaire ce bon vieux temps, océan de temps qu'il nous reste pour qu'il soit beau tant et plus ce qu'il sera, semé dans le sillon de mes rides, de mon visage témoin, jamais trop loin, vif et joyeux, de tout ce qui exhale, respire, vibre, réchauffe. Donne la force d'aimer. Puisque c'est ainsi, que rien ne nous échappe, à part notre propre vie, et que la mort des autres n'est que vue de l'âme, et que l'amour des vivants s'étore infiniment, les honore. Tes yeux perles de sourire, mes yeux perleront toujours sur toi, car le temps marque de son empreinte.
Et vous êtes beaucoup promené là-bas à Paris?
Chaque soir, je l'ai fané sur les boulevards.
Non, dites, vous avez dû rencontrer Landolfi.
Qui est ce Landolfi?
C'est un camarade de régiment à moi. Landolfi, un grand blond. Il a des moustaches, là. Avec les yeux qui portent linge, vous savez. Oh, vous l'avez sûrement rencontré.
Et non, je n'ai pas vu Landolfi.
Comment, vous l'avez pas vu? Mais vous n'êtes pas allé à Paris, alors?
Oh, j'en viens.
De Paris? Et vous n'avez pas vu Landolfi?
Et non.
Alors, il est mort.
Pas cher.
Oh, mais non, Paris est grand.
Ah oui, c'est grand, oui, c'est grand. Oui. Ah si, c'est peut-être grand, mais enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille.
Hmm? J'ai vu au moins 40 canebières.
C'est le voyage qui vous a fatigué, monsieur. Alors ça, après, on dira que c'est nous, les Marseillais, qui exagérons. Quelle mentalité, mon Dieu. 40 Canadiens. Oh, yeah. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous savez. Vous.
Oh, cooking des soirs, milieu de vie.
J'arrive de Paris. Hier dans la nuit, le petit chemin s'est frotté contre moi. J'ai senti son herbe mouillée sur mes chevilles. Des ronces nues retenaient mon manteau. J'ai poussé ma porte, mon chien sans race a bondi vers mon visage en lapant l'air à grands coups de langue. Mon chat a sauté sur mon épaule, mon chat neuf, un petit animal étrange, feu et noir, un chat de branche, un chat sauvage venu il y a un mois, du-delà des choses terrestres, à travers les branches d'un arbre, jusqu'à moi qui marchais dans les collines. Il y avait une belle lune entière, tout à moi. Je me souviens de cet homme rencontré boulevard Saint-Germain. Il venait d'arracher un journal à un marchand. Il avait eu des gestes précis pour ça. Main tendue, doigt preste, un regard pour la pièce de 5 sous, pas de regard pour le journal. Et maintenant, il courait sur le trottoir, la feuille dans son poing. Il avait un visage tout crispé, des yeux qui regardaient loin, mais avec tristesse, et de la fatigue plein sa bouche. Il courait. Une course d'homme des villes. Je le suivis de ma grands pas. Je me disais, il est pressé, où va-t-il? Où est le but? D'un coup, il s'immobilisa au coin d'un trottoir. Plus de hâte, la fin. Le but était là, à un coin de trottoir quelconque. Pas même quelconque, à côté d'un marchand de fromage. Moi qui ai l'habitude des fumiers campagnards, j'étouffais dans cette odeur de camembert. Je voulais savoir le fin mot, j'attendis. L'homme lisait le journal, il était toujours triste et là. L'autobus arriva. D'un bond dont je ne le croyais plus capable, l'homme s'élança. Je le vis à travers les vitres s'asseoir, regarder vaguement son alentour, reprendre son journal. L'autobus démarra sur un coup de timbre. C'est pour cet homme-là que je veux écrire ce soir. Monsieur, mon cher ami homme, homme, voilà comment je veux t'appeler, tu permets? Homme, ne cours plus, ne te hâte plus, j'ai vu ton but. J'ai vu ton but parce que j'ai des yeux neufs, parce que je suis comme un enfant, parce que je sais comme les enfants. Ne cours plus, tu as pris la mauvaise route. Je t'ai regardé, je t'ai vu, je sais regarder les hommes. Et je ne veux pas croire que le but vers lequel tu courais, c'était ce coin de trottoir dans l'odeur des fromages, ou ce terminus de l'autobus sur une place pleine de boue. C'était ce que tu regardais là-bas, loin, avec tes yeux tristes. Écoute-moi, je vais te dire tout ça à toi bien doucement. Tu as vu le soir cette patte phosphorescente d'auto qui tourne sur la place de la Concorde? On dirait que quelque chose brasse cette patte à grands coups. Ça crie, ça tourne, ça ne lève pas, ça n'a pas de levain. Ça tourne puis ça s'écoule comme de l'eau claire et ça va croupir dans le fin fond des maisons. Tout ça, toute la ville, tout Paris se hâte et court, comme toi, vers le but. Aveugle. Vous êtes des aveugles. Courez, vous pouvez courir. Le but est derrière votre dos. Il n'y a plus d'autobus pour cette direction. Il faut y aller à pied. Il faut qu'on vous prenne la main et qu'on vous dise « Venez, suivez-moi. » Homme, écoute-moi. Je vais prendre ta main et te dire « Viens, suis-moi. » J'ai ici ma vigne et mon vin, mes oliviers, et je vais surveiller l'huile moi-même au vieux moulin tout enfumé parmi les hommes nus. Tu as vu l'amour de mon chien? Ça ne te fait pas réfléchir, ça? Ce soir où je t'écris, le soleil vient de se coucher dans un éclaboussement de sang. Le mythe premier de la mort du soleil, je ne l'ai jamais lu dans les livres. Je l'ai lu dans le grand livre là, autour. J'étais un peu ennuyée hier matin parce que j'avais 3 pigeons en trop dans mon pigeonnier. 3 ramiers tout fiers et tout roucoulants qui sont venus faire soumission au grain de ma main. J'ai là sous ma fenêtre la fontaine d'une eau que je suis allée chercher à la pioche. C'est ça le but. C'est ça que tu regardais de tes yeux tristes là-bas au fond de l'air. Viens, suis-moi. Suis-moi. Il n'y aura de bonheur pour toi, homme, que le jour où tu seras dans le soleil, debout à côté de moi. Viens, dis la bonne nouvelle autour de toi. Viens, venez tous. Il n'y aura de bonheur pour vous que le jour où les grands arbres crèveront les rues, où le poids des lianes fera crouler l'obélisque et courber la tour Eiffel, où devant les guichets du Louvre, on n'entendra plus que le léger bruit des cosses mûres qui s'ouvrent et des graines sauvages qui tombent. Le jour où des cavernes du métro, des sangliers éblouis, sortiront en tremblant de la queue.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont-Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont-Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Et je te T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont-Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle.
Tu comprends, me dit Justin. Demain, la femme va à Chausserigne, alors. Comme ça, un jour de semaine, c'est pas la foire. Non, c'est pour une affaire de famille. Il a pris un petit air absent tout aussitôt et tout juste assez pour laisser un coin de son œil qui me regarde. Moi, je sais, il faut faire celui qui a d'autres soucis. Je regarde la pendule. Alors, je te laisse, tu dois avoir à préparer. Eh non, dit Justin, reste encore un peu. Et puis, il est à peine 2 heures, et puis il pleut. Et puis, assieds-toi, Mélanie, apporte encore 1 litre. Nous remplissons nos pipes. Justin bourre la sienne jusqu'en dessus des bords pour que ça tienne longtemps. Puis, il se mouille le pouce avec de la salive et il tasse le tabac avec le pouce et en tournant. Il allume juste le milieu et il tète doucement. « Voilà, je vais te dire cette affaire. Tu te souviens de la sœur de ma femme, Rosine ? Non, tu te souviens pas ? Une un peu fraisette, là, un peu chienne, avec de la pomponaille, dégourdie, là. On l'avait trouvée une fois avec Barnabus, tu te souviens pas ? C'est drôle. » « Dis, Justin, Barnabus, si c'est de celui-là que tu parles, il a au moins 80 ans, alors. »« C'est vrai, ça, tiens, je croyais que tu étais plus vieux. » C'est vrai ça, mais ça ne fait rien, écoute. Cette Rosine, de son premier mari, elle a eu une fille. Puis cette fille s'est mariée. Arrête un peu, Justin, comment veux-tu que je me souvienne ? Ça date de 50 ans au moins. Il réfléchit un petit moment. 50 ans au moins. Ça tu dis bien, mais c'est curieux, ça je me souviens moi. C'est peut-être parce qu'on en a parlé à la maison. Et puis j'ai dû voir sa photographie de cette Rosine. Donc Berthe, la fille de Rosine, se marie et elle a une fille. Eh bien, Justin, ça en fait des filles, ça. Oui, ça en fait 3, mais ça ne fait rien. C'est ici que ça commence. Cette petite, on l'appelait Annette. Ça va 1 an, ça va 2 ans, 2 ans et demi, ça va même 3 ans. Mais à ce bout, ma Berthe meurt. Elle s'était toute usée à tripoter le linge pour les autres, à aller au lavoir en plein hiver, à se louer pour des ménages. Elle meurt. Bon. Son homme, c'était un de ceux, tu sais, qui ont les bras en raffia. Puis il aimait l'absinthe. 6 mois après, il meurt aussi, tout brûlé en dedans par la boisson. Bon, voilà la petite seule. Je me souviens qu'à ce moment-là, tous les soirs, la femme me disait « Aussi, Justin, cette petite qui est toute seule. » Et moi, je lui disais « Eh oui, et puis on s'endormait. La Rosine écrit à son frère, le Gêne qui est serrurier à la bourgade. « Si tu pouvais prendre cette petite chez toi, toi qui as un atelier, tu la garderais. Moi, je me suis remariée, mon mari, tu sais. » Eugène ne fait ni une ni deux, il va chercher la petite et il la prend. Cet Eugène, c'est pas un mauvais garçon. Il a du cœur, mais de ça sans force de caractère. Il a gardé la petite pendant 2 ans. Et puis sa femme était toujours là, à tiquer. « Et elle est ci, et elle est ça, et c'est bientôt la Rosine, et elle pisse au lit. » Ils avaient un petit garçon, et celui-là, de voir Annette qui montait sur les genoux de l'Eugène et qui leur disait « Papa », il s'en faisait péter la gueule à crier « C'est pas ton papa, c'est le mien !» En fin des scènes, tout compte fait, au bout de 2 ans, il a retourné la petite à sa grand-mère. « Celle-là, on aurait dit que tu lui apportais un mouchoir sale. Elle l'a mise à l'orphelinat. » Voilà. Alors avant-hier, maintenant que tu sais, l'Amélie est revenue de Chausserigne et elle est vite entrée à la maison et allée de bavarder avec la femme. Chuch, là sous la coiffe. Et la femme a fait ça quand même. Alors j'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, la petite Lanette, qui est sortie de l'orphelinat et qui est placée à Chausserigne. Lanette, et pourquoi elle est sortie? Elle est libre, m'a dit l'Amélie, elle a 21 ans. Ça alors, tu vois ça toi, elle est libre. J'ai dit à la femme, tu vas te mettre ton chapeau et puis demain tu fileras là-bas. Tu iras voir son patron et même tu lui porteras une douzaine d'œufs, pas des plus frais, hein, ceux de la jarre. Tu iras le voir et tu lui diras, c'est notre nièce, ça c'est vrai, on ne peut pas nier. Mais les enfants comme ça, on ne sait jamais ce que ça devient, élevé dans ces maisons. Alors voilà, vous êtes prévenus, nous, on n'est responsables de rien. Tu vois pas qu'elle fasse quelque chose de mal et puis qu'on vienne nous réclamer à nous? Philippe s'en va à ses amandiers. Je l'ai vu sur la place qui prenait le vent à renifler le nez en l'air, à bien regarder les quatre coins du ciel et ce qu'il a vu l'a décidé. C'est un vent qui veut travailler, quelqu'un de lourd qui vient de la mer, avec de beaux nuages gras, ça fait l'affaire. Je suis descendue, j'ai fait les grands pas sur le chemin où Philippe va de son pas à lui. C'est bien Philippe tout entier, ce lent mouvement de jambes, cette tête qui fait gauche, droite en même temps. Cette façon de porter la bêche, l'acier plaqué sur l'épaule, le manche dardé en avant. L'outil se tient tout seul, les mains libres au chaud dans les poches. Je le rejoins et il me dit « Je vais aux amandiers. S'il pleuvait un peu après, ça irait bien. Moi, je m'arrange toujours pour tout faire de moitié. » « Comment, vous partagez avec le gendre ?»« Non, c'est pas tout ce que je veux dire. Je veux dire qu'on fait tout de moitié. Un peu moi, un peu le temps. Moi, je vais faire les ronds autour des pieds. Le temps fera la pluie. Entre la pluie et les ronds, nous arriverons bien à faire les fleurs. » « Ah oui, comme ça je vois. Mais vous n'avez pas tout réfléchi. Il n'y a pas que vous et le temps. Il y a l'arbre aussi. L'arbre ? C'est exprès que je ne le compte pas. On voit que vous ne le connaissez pas. Si on n'y était pas, ça ferait tout à sa fantaisie. L'arbre, c'est tout en fantaisie. C'est intelligent, je dis pas. Ça comprend des choses. Mais c'est comme des bêtes. Ça passe son temps à l'amusement. Je vais vous dire. Vous savez où il est mon verger ? Là, au bout du plat. Le vent froid, ça le reçoit en plein. » Alors depuis avant la Noël, vous avez vu comme il faisait doux. Eh bien vous verrez, il y en a deux ou trois qui sont fleuris. Si c'était des jeunes encore, ça va, il y aurait l'excuse, mais des vieux. Et alors ils ont l'air de trouver ça très bien. Ils ne le font pas en cachette, non, ils font ça comme ça, pour la gloire. Pour dire, vous voyez, moi si je suis fort, je suis le premier. Ils sont comme ça, vous savez, les arbres. Et puis dès que le Mistral commencera, ils feront Jésus. Les autres avec leurs fleurs pliées, ça leur sera facile. Ils bomberont le dos, puisqu'il est comme ça, ce vent, qu'il veut qu'on bombe le dos, qu'on n'ait pas de fleurs. Ça leur sera facile. Cela pour avoir voulu faire de la fantaisie, d'abord ça les gèlera, et puis comme c'est leur orgueil, ces fleurs, ça tiendra les branches raides, ça voudra faire les malins, et ça se fera casser les branches. J'en ai vu qui en sont morts de ça. Nous arrivons au rebord du plateau. Il y a dans la terre les grands coups d'ongles des orages, et des cicatrices toutes fraîches, et des ravins un peu guéris, avec une croûte de jeunes arbres. Je descends jusqu'à la vallée en bas. On voit le dessus des toits des deux villages, presque en face. Un de chaque côté du torrent et un pont. On voit le torrent avec son eau bleue, toute divisée dans son lit de pierre. Et puis les champs dans la vallée qui ressemblent à ces tapis qu'on fait pour le pied des lits avec des morceaux d'étoffe de tous les vêtements qu'on ne met plus. Vous savez, on coud les morceaux ensemble à gros points. Il y en a de toutes les couleurs. Et puis du velours, de la toile, de la laine, du drap, de la soie. Des fois un bout de chemisette. « Tenez la chemisette, me dit Philippe, ça serait ce chant là-bas, que je crois que c'est le chant du Belin de la Bégude. Vous le voyez avec ses petites fioritures ? Ma femme avait une chemisette comme ça quand elle était fille. » Nous avons marché sur le bord du plateau, puis Philippe a dit « Je vais vous faire voir le mouton. » « Un mouton mort ? Ah, je sais pas s'il est mort, mais je vais vous le faire voir. Venez, il faut qu'on soit ici. » Ici, c'est un promontoire qui lance sa pointe sur la vallée. On domine tous les contreforts de la colline. Il pointe son doigt. « Tenez, vous le voyez là ?» Je regarde. Ce sont des collinettes et des bois de chêne vert. Je dis de bonne foi non, je ne le vois pas. Et cependant, je connais mon Philippe, mais je cherche un mouton véritable. Il y a des fois comme ça où on se laisse prendre. « Vous ne le voyez pas ? Vous ne le voyez pas là ? Regardez. Il est couché à plat ventre, ses pattes repliées dessous lui. Vous voyez là, on voit sa cuisse de derrière. Sa queue, c'est cette grande touffe d'arbre qui est là-bas, vers la ferme d'Anatole. Vous le voyez le mouton ? C'est un vieux. » Regardez dessus, son dos s'est tout pelé. Il ne reste que ses pompons de genévrier sur les flancs, que ça imite bien la laine. Vous voyez là, on dirait bien les pattes de devant pliées. Le mouton, ça a des pattes comme un mètre pliant, ça se plie recta. Et puis alors, vous voyez là, son cou tout allongé sur le flanc du plateau. Il va cacher sa tête là, dans la pinède. Vous le voyez, n'est-ce pas, que ça imite bien ? Oui, ça imite bien. C'est une colline couchée comme une brebis lasse dans les bouts du torrent. Son cou s'allonge vers nous, tout déroulé. On cherche même sa tête là-bas, sous les pins. C'est une brebis qui tient ses 4 km de long et au moins ses 2 de large, depuis le val de Fontenouille jusqu'à la ferme des Garcins. « Vous voyez, me dit Philippe, il ne respire pas, le mouton. Il doit être mort, comme vous dites. » Il reste un moment muet, puis « Ne dites pas le contraire, ça ressemble bien à un mouton, pas vrai ?» Puis il continue sa pensée, ou bien il saute dans sa pensée à autre chose, ou bien on ne sait jamais avec Philippe. « J'ai porté mon couteau aussi. Vous voyez mon quatrième arbre là-bas ? C'est toujours celui-là qui fait la fantaisie. Je vais un peu lui couper quelques branches, ça lui fera voir que c'est moi le maître. »
Quand il s'agissait de chanter, il se faisait pas prier. À 5h du matin, il chantait ses guérofrains. Des carottes puis des navots, venez voir comme ils sont beaux. Ah, on en a des légumes. carapidés, navots, à des bêtes rapidées, poireaux, ah oh oui, on en a des beaux choux, des bêtes alpidées, tomates, on en a des roues, des vertes. Il commence à chanter, venez voir mes échalotes, seulement qu'à 10 sous la bas, des radis pis de la salade, des pétates pis de la rhubarbe, j'ai du vrai sirop d'arabe fait avec la cassonade. Oh, on en a des légumes, des carottes pis des navots, des bêtes rapides, des poireaux, ah oh oui, on en a des beaux choux, des pétates pis des tomates, on en a des roues, des vertes. Le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. Oh, on a des beaux cocons, oh, on en a pour tout le monde. Y'en a pas dans le quartier qu'à des beaux cocons comme moi. Oh, on en a des légumes, des carottes pis des navots, des betteraves pis des poireaux. Ah oh, oui, on en a des beaux choux, des patates pis des tomates, on en a des roues, des vertes. Il faut le watcher des prêts, des belles prunes, puis des fraises, des gros oeufs, puis des framboises. Autre jour à mon allant, j'ai dit pas vu le commerçant, ses corseaux étaient pas pleins, il en faisait dedans. Hey, oh, on en a des légumes, des carottes, puis des navots, des betteraves, puis des poireaux. Ah oh, oui, on en a des beaux choux, des patates, puis des tomates, on en a des roues, des vertes. Il vient tout découragé, il va vendre sa wagon pour être petit facon de gin. Il s'en va tout de travers en faisant les manchoirs. Je vous dis qu'elle débarras, il chante plus depuis ce temps-là. Oh, on en a des légumes, des carottes pis des navots, des betteraves pis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates pis des tomates, on en a des roues, des vertes.
Il y a bien longtemps que je désire écrire un roman dans lequel on entendrait chanter le monde. Dans tous les livres actuels, on donne à mon avis une trop grande place aux êtres mesquins et l'on néglige de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l'univers. Les graines dont on ensemence les livres, on les achète toujours au même grainier. On sème beaucoup l'amour sous toutes ses formes et c'est une plante bien abâtardie. Encore une ou deux poignées d'autres graines et c'est tout. Tout ça d'ailleurs se sème sur l'homme. Je sais bien qu'on ne peut guère concevoir un roman sans homme, puisqu'il y en a dans le monde. Ce qu'il faudrait, c'est le mettre à sa place, ne pas le faire le centre de tout, être assez humble pour s'apercevoir qu'une montagne existe non seulement comme hauteur et largeur, mais comme poids, effluve, geste, puissance d'envoûtement, parole, sympathie. Un fleuve est un personnage avec ses rages et ses amours, sa force, son dieu hasard, ses maladies, sa fin d'aventure. Les rivières, les sources sont des personnages. Elles aiment, elles trompent, elles mentent, elles trahissent. Elles sont belles, elles s'habillent de joncs et de mousse. Les forêts respirent, les champs, les landes, les collines, les plages, les océans, les vallées dans les montagnes, les cimes éperdues frappées d'éclairs et les orgueilleuses murailles de roches sur lesquelles le vent des hauteurs vient s'éventrer depuis les premiers âges du monde. Tout ça n'est pas un simple spectacle pour nos yeux. C'est une société d'êtres vivants. Nous ne connaissons que l'anatomie de ces belles choses vivantes, aussi humaines que nous. Et si les mystères nous limitent de toutes parts, c'est que nous n'avons jamais tenu compte des psychologies telluriques, végétales, fluviales et marines. Cet apaisement qui nous vient dans l'amitié d'une montagne, cet appétit pour les forêts, cette ivresse qui nous balance, regard éteint et pensée morte, parce que nous avons senti l'odeur des bardanes humides, des champignons, des écorces, cette joie d'entrer dans l'herbe jusqu'au ventre, ce ne sont pas des créations de nos sens, ça existe autour de nous et ça dirige plus nos gestes que ce que nous croyons. Je sais que quelquefois on s'est servi d'un fleuve pour faire charrier à travers un roman des alluvions de terreur, de mystère ou de force. Je sais qu'on s'est servi des montagnes et que tous les jours on se sert encore de la terre et des champs. On fait chanter les oiseaux dans les forêts. Non, ce que je voudrais faire, c'est mettre tout ça à sa place. Malgré tout, dans l'admirable dernier roman de Jules Romain, Paris est un peu petit. Paris en tant que personnage est beaucoup plus costaud que ça. Je le connais mal. Les quelques fois où je l'ai fréquenté, il m'a si bien montré le jeu de certains de ses muscles, si bien réussi quelques passes de lutte secrètes, que je le tiens désormais en lointain respect. Dans cette société des gros habitants de l'univers, il est, avec toutes les grandes villes, la belle guape cultivée, sportive, séduisante et pourrie. Si je dis qu'il est petit dans ce livre, c'est que pour le moment les hommes ont trop d'importance par rapport à lui. Il est possible d'ailleurs que dans les prochains volumes, son portrait soit complété et qu'au bout du compte on le voit enfin comme il est, plat, rongeur, grondant, fouisseur de terre, embué dans la puanteur de ses sueurs humaines, comme une grosse fourmilière qui souffle son acide. Oui, on s'est servi de tout ça. Il ne faut pas s'en servir, il faut le voir. Il faut, je crois, voir, aimer, comprendre, haïr l'entourage des hommes, le monde d'autour, comme on est obligé de regarder, d'aimer, de détester profondément les hommes pour les peindre. Il ne faut plus isoler le personnage homme, l'ensemencer de simples graines habituelles, mais le montrer tel qu'il est, c'est-à-dire traversé, imbibé, lourd et lumineux des effluves, des influences, du champ du monde. Pour qui a vécu un peu de temps dans un petit hameau de montagne, par exemple, il est inutile de dire combien cette montagne tient de place dans les conversations des hommes. Pour un village de pêcheurs, c'est la mer. Pour un village des terres, ce sont les champs, les blés et les prés. On ne peut pas isoler l'homme. Il n'est pas isolé. Le visage de la terre est dans son cœur. Pour faire ce roman, il ne faudrait que des yeux neufs, des oreilles neuves, des chairs nouvelles, un homme assez meurtri, assez battu, assez écorché par la vie, pour ne plus désirer que la berceuse chantée par le monde.
Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Au début des années 80, je venais d'entrer au Conseil d'État. Lorsque le secrétaire général me proposa une affectation à la commission des recours des réfugiés, j'acceptai d'enthousiasme, sans trop savoir ce qui m'attendait. Lorsqu'un demandeur d'asile arrive en France, il demande le statut de réfugié à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et si celui-ci le refuse, il peut se pourvoir devant la commission des recours. C'est une juridiction divisée en sections. Chaque section comporte 3 juges, dont l'un est désigné par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le rapporteur prépare les dossiers et, en séance publique, donne son appréciation avant que la parole ne soit donnée aux demandeurs. À l'époque, c'était très artisanal. Il y avait 2 ou 3 000 demandes par an, quand aujourd'hui il y en a plus de 30 000. Les deux personnages principaux étaient le président de la section et le rapporteur, qui travaillaient ensemble, se mettaient d'accord sur la décision à prendre, rédigeaient ensemble. Mon président de section s'appelait Georges Dreyfus. Celle-ci se réunissait rue de la Verrerie, à deux pas de là où j'habitais, dans un immeuble de vieux appartements du Marais, à peine transformé, arabouté, incommode. Les réfugiés attendaient leur tour sur des canapés défoncés. La plupart n'avaient pas d'avocat et se défendaient seuls. Il n'y avait pas d'agent de police, pas de garde de sécurité. Georges Dreyfus me paraissait vieux. Il devait avoir à peu près le même âge que moi aujourd'hui. Il était rentré assez tard au Conseil d'État, après avoir fait carrière dans l'administration coloniale. Il avait été, je crois, chef de cercle au Cameroun, puis, à la fin, le dernier gouverneur de l'Afrique équatoriale française. Ça lui conférait une manière de prestige. Il n'en abusait pas. Il ne prétendait pas. Toujours simple, net, direct. D'une intelligence vive et souvent compatissante. Au contraire de beaucoup de ses pairs, il laissait parler longuement les réfugiés en séance, ne manifestait jamais d'impatience, les interrogeait avec humanité, paraissant prêt à changer d'avis jusqu'au dernier moment. Ces malheureux ne quittent pas le pays où ils ont été persécutés avec un certificat de torture en poche signé du chef de la police. Ils ne présentent presque jamais de preuves. C'est leur récit qui compte. Il y faut beaucoup de discernement. Certains ne disent pas la vérité qui leur vaudrait le statut et préfèrent raconter les fables dont un ami les a persuadés qu'elles emporteraient la conviction. D'autres font mauvaise impression en plaidant d'une voix de stentor ou en essayant d'émouvoir, alors qu'un récit plus simple, plus fidèle, déciderait leur juge. Georges Dreyfus se trompait rarement. Lui-même avait été déchu de la nationalité française en 1940, parce que se trouvant à Londres pour ses études, il s'était immédiatement engagé dans les forces françaises libres. Rien de ce que pouvaient dire en séance, parfois très maladroitement, ceux qui avaient fait un choix décisif et à cause de cela entendu siffler des balles, ne lui paraissait étranger. J'avais une grande admiration pour lui. Je crois qu'il m'appréciait, bien qu'il ne fût pas le moindre du monde paternel. Assez vite, nous n'avons plus eu besoin pour nous parler, de nous parler pour nous comprendre. Je regardais, j'écoutais attentivement Georges Dreyfus. Je crois à présent qu'il était hanté par l'indifférence, qui lui paraissait la seule faute. Il lui semblait, je crois, que l'indifférence, et non le mal, avait brisé ses destins, dont les dernières lignes aboutissaient devant notre cour. Au bout du chemin de ces femmes, de ces hommes abandonnés, il y avait Georges Dreyfus, qui faisait un immense effort d'attention comme pour racheter une faute qui n'était pas la sienne. Au début de 1982, nous avons jugé les hiérarques iraniens chassés par la révolution islamique. L'OFPRA avait accordé le statut à la plupart, sauf aux anciens membres de la SAVAK, la police politique du Shah. Georges Dreyfus s'est attribué ses dossiers et j'ai fait mon rapport. Je me souviens que le Quai d'Orsay avait effectué de délicates pressions pour que nous traitions avec générosité les quelques généraux qui avaient commandé cette officine, qui tous étaient de grands francophiles, décorés par la patrie des droits de l'homme. En revanche, nous étions invités à nous montrer particulièrement sévères à l'égard des exécutants qui avaient fait tourner les Gégènes dans les caves de la prison des Vins. Dreyfus ne l'entendait pas de cette oreille. Il était venu au délibéré avec le recueil des décisions du Conseil d'État pour 1946. Sur la page de gauche, le cas du général de gendarmerie X qui avait commandé Drancy. Absolution. Sur celle de droite, celle du gendarme Y qui avait accompagné les convois. Condamnation. Et les anciens de la SAVAK se sont vus appliquer sans distinction de grade la clause de la Convention de Genève qui prévoit qu'on ne peut pas se réclamer de droits que l'on a violés lorsqu'on avait le pouvoir. Je suis retournée pour quelques mois à ma vie ordinaire, des dossiers de Tamouls du Sri Lanka, de Zaïrois, de Tchadiens. Puis un soir, Georges Dreyfus m'a retenue à l'issue d'un délibéré qui avait été fort long. Nous sommes descendus ensemble boire une bière dans un café au pied de Saint-Méry. C'était au début du printemps. Dreyfus semblait chercher ses phrases, ce qui ne lui était pas habituel. Il m'a parlé assez longuement du quartier, de la maison de Nicolas Flamel, de la passion d'André Breton pour la tour Saint-Jacques. Puis sans transition, il m'a demandé si je connaissais le Pays basque. Je ne le connaissais pas, ni le français, ni l'espagnol. J'avais une vague idée du mouvement indépendantiste, de sa lutte contre le franquisme. Je me souvenais, comme tout le monde, de l'assassinat à Madrid du dauphin désigné de Franco, l'amiral Carrero Blanco, dont la voiture avait été soufflée jusqu'au-dessus des maisons par une charge d'explosifs trop forte. J'avais lu dans les journaux que Giscard avait décidé de retirer le statut de réfugié aux Basques espagnols vivant en France, au motif que l'Espagne étant devenue une démocratie, il n'y avait aucune raison de maintenir aux Basques la protection qui leur avait été accordée autrefois. « Précisément, dit Georges Dreyfus, la plupart de ces Basques se sont pourvus devant nous. Une vingtaine de recours basques sont arrivés à la commission et nous allons les traiter. » Je lui dis que je ne voyais pas bien où se trouvait la difficulté que son ton hésitant me laissait deviner. Pouvions-nous seulement faire à l'Espagne la mauvaise manière de tenir pour nul et non avenu son retour au droit ? Il éluda. « Lisez les recours et reparlons-en. » À la vérité, nous n'en avons jamais reparlé, contrairement à notre habitude, avant la date de l'audience. À l'époque, la jurisprudence n'admettait pas que l'on pût obtenir le statut de réfugié autrement qu'en étant directement persécuté par un État. Elle ne permettait pas de considérer les menaces d'une organisation occulte bénéficiant du soutien caché de l'État ou même de tenir compte du fait que les autorités judiciaires d'un État puissent se révéler impuissantes à protéger un citoyen contre de telles menaces. Les règles de droit étaient claires. J'en discernais immédiatement toute la rigueur, même si je jugeais impossible de nous en affranchir. J'imaginais que Georges Dreyfus s'y montrerait sensible, lui si attaché aux droits de la personne, et si attentif toujours à l'apparition au milieu de nous de ce fantôme de l'indifférence qu'il s'efforçait de conjurer. Mais ce jour-là, il n'ajouta pas un mot sur cette difficulté, comme disent les juristes, sur laquelle nous ne pouvions encore mettre de visage. Nous restâmes un long moment à fumer et à boire dans ce café. Dreyfus me décrivit le Pays basque. Il le connaissait bien. Nous nous séparâmes très tard et comme à regret. Le lendemain, je passai à la commission chercher les dossiers des Basques et je les rapportai chez moi. En chemin, je m'arrêtais à un café faisant le coin du boulevard qui s'appelait le café de l'Institut à cause de la morgue toute proche. Le spectacle était au bar, où un vieil homme en blouse blanche, maigre et sarcastique, pérorait au milieu d'un cercle d'étudiants en médecine. Il était fier d'avoir, dans sa jeunesse, au maquis, attaqué des convois allemands en lançant des grenades dans une chistera parce qu'il était basque. Je me souviens de m'être rapproché pour l'écouter à cause de ce mot de basque, frappé par la coïncidence, et parce qu'il parlait de ses origines, ce que personne ne faisait à l'époque. Une heure durant, il a parlé de Roncevaux et de sa bataille imaginaire de Saint-Jean-Pied-de-Port. Son public se clairsemait. Nous sommes restés quatre et nous nous sommes assis à une table. « Vous n'avez pas l'air d'un médecin, vous, » m'a-t-il dit, soupçonneux. Je lui ai répondu que j'étais juge, c'était plus simple, et il a haussé les épaules. Il est passé des juges aux crimes, des crimes aux cadavres, des cadavres à la mort. Puis parlant cette fois pour lui-même et d'une voix plus basse, il nous a raconté le chemin des morts. Chez les Basques, la maison est le centre de tout. L'homme et la femme y règnent ensemble à parts égales. Ils ont la même dignité et leurs deux noms sont gravés côte à côte sur le linteau de la porte. Quand un membre de la famille meurt, il est conduit de la maison au cimetière par un chemin particulier que l'on appelle le chemin des morts. Chaque maison, chaque famille a le sien. Ils ne se confondent pas, si bien qu'au-dessus des routes et des sentiers du village, ou au-dessus d'eux, ou à côté, comme on voudra, il y a d'autres chemins, invisibles, formant une toile, dont l'église est le centre. J'ai fini par ouvrir les dossiers basques 3 jours avant la séance. J'ai travaillé 2 jours et 2 nuits sans interruption jusqu'à la veille de l'audience. La plupart des dossiers tombaient d'eux-mêmes, comme nous disions. Plusieurs requérants avaient déjà quitté la France pour l'Amérique latine et n'avaient formé que par ordre un recours dont ils se désintéressaient à présent. D'autres étaient devenus français à l'insu de l'administration de l'asile, si bien qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur des demandes qu'ils avaient faites un peu au hasard ou pour le principe. Il n'en restait qu'une poignée. La plupart étaient des militants de base qui ne s'étaient jamais vraiment signalés et dont on pouvait penser que si leur recours était rejeté, ils continueraient de vivre en France en clandestin, sans que l'administration ne songe à les expulser jusqu'au jour où ils obtiendraient des papiers dans une autre préfecture, profitant de la distraction des services et du désordre des archives. Tout autre était Ibarategui. Il était né à Thestoa, dans le Guipuscoa, en 1940. Après des études supérieures en lettres, il était revenu dans son pays en qualité d'instituteur, alors qu'il aurait pu prétendre à davantage. C'était un militant de la cause basque, mais plus encore de l'antifranquisme. C'est sans doute à cause de cela que son souvenir est toujours aujourd'hui aussi vivant là-bas, où les gens sont lassés de ce terrorisme sans issue, de ces groupuscules qui se font et se défont sans cesse et touchent au banditisme. Ibarategui avait été une sorte d'autorité morale, un homme réservé et droit, inspirant une grande confiance. Il avait quand même adhéré à l'ETA et occupé un rang important dans l'organisation clandestine. Tout cela aurait dû l'empêcher de verser dans l'action directe. Pourtant, en 68, il avait fait partie du commando qui a assassiné le commissaire Meliton Manthanas. Le commissaire était un tortionnaire notoire. Il y avait là-dessus plusieurs hypothèses. Celle qui revenait le plus souvent était que ce policier aurait fait mourir sous la torture une jeune militante à laquelle Ibarategui tenait particulièrement. Activement recherché, il était parti en 1969 pour la France, où il avait obtenu le statut de réfugié. Là, il avait vécu pendant 10 ans de façon modeste, s'abstenant de toute activité militante, comme si quelque chose en lui s'était brisé. Au moment de l'assassinat de l'amiral Carrero Blanco en 73, il avait écrit un petit texte pour désapprouver l'attentat, texte qui avait été publié dans plusieurs feuilles clandestines et qui lui avait été reproché par ses anciens camarades comme par certaines voix autorisées de l'extrême gauche française. Sans plus, il était presque oublié après tout ce temps passé en silence. Je suis arrivé rue de la Verrerie 1 heure avant le début de l'audience. Il faisait beau et j'entendais avec plaisir les bruits médiévaux de ces rues étroites montées vers moi par les fenêtres ouvertes. J'ai relu rapidement les rapports que j'allais tout à l'heure prononcer en séance. Je me suis demandé depuis, presque chaque jour, si j'aurais pu rédiger autre chose que ce que j'avais écrit. L'Espagne était devenue démocratique et nous n'avions plus de raison de garder sur notre sol les réfugiés espagnols, basques ou non. J'avais trouvé dans les dossiers plusieurs documents administratifs et 2 notes des renseignements généraux en particulier qui prétendaient montrer que des groupuscules parallèles étaient toujours actifs. Elles m'avaient paru reposer plutôt sur des impressions que sur des faits, au mieux sur des indices qui ne pouvaient fonder aucune certitude. Rédigée dans un style plat et vague, elle n'offrait aucun terrain solide au raisonnement de droit. Lorsque la Convention de Genève évoque des persécutions, il faut, pour que la victime puisse obtenir le statut de réfugié, que l'État en soit directement responsable. C'est du moins le principe à l'époque, principe répété affaire après affaire par le Conseil d'État, juridiction suprême. Rien ne permettait alors de prouver que l'État espagnol armait en secret ces groupuscules dont parlaient les notes administratives ou leur assurait l'impunité. Et l'écrire sans preuve, dans une décision de justice, me semblait impossible. La vérité est que je ne me suis pas trop attardée. Je n'ai pas beaucoup hésité. Non que j'ai pensé que je n'étais qu'une seule voix parmi les juges. Je savais obscurément que Georges Dreyfus se rangerait aux conclusions de mon rapport, et les autres membres de la commission le suivaient toujours. Si je me suis demandé un instant pourquoi il ne m'avait pas fait venir, selon nos habitudes, pour revoir ensemble les cas difficiles avant la séance, je ne m'y suis pas attardée. Je croyais que notre décision n'aurait pas de conséquences si graves. Ibarrategui se perdrait dans la nature et ne reviendrait jamais chez lui, comme la plupart de ceux auxquels nous refusions l'asile, et dès lors, rien ne m'empêchait plus de tenir, de faire prévaloir un raisonnement que je pensais rigoureux. Georges Dreyfus est arrivé à l'heure, aussi vif et enjoué que d'habitude. Les assesseurs ont pris leur place à droite et à gauche du président Dreyfus. L'assesseur désigné par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés était une grosse femme, méchante et péremptoire, gâtée par ses 20 dernières années de carrière passées à intriguer dans les bureaux. Mais elle avait dû être belle et généreuse. L'assesseur désigné par l'administration était un ancien diplomate au jugement pittoresque et imprévisible. La salle était vide, sans aucun public, à cette heure matinale. Javier Ibarrategui est entré seul. Il n'avait pas d'avocat et s'est tenu debout devant la petite table en bois blanc au-dessus de l'estrade des juges, attendant d'être autorisé à s'asseoir. « Je vous en prie, » a dit Georges Dreyfus, attentif et courtois. Ibarrategui s'est assis, les mains plates sur la table, sans montrer aucune émotion. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un vieux costume gris, tout râpé, mais qu'il portait avec l'élégance d'un homme qui ne se soucie pas de ces choses. Une couronne de cheveux frisés dégageait un front haut, son regard frappait surtout. Des yeux d'un vert de lagune, exprimant une sévérité tranquille dont on devinait qu'il ne s'exemptait pas. Je crois que nous avons tous ressenti, dans son immobilité même, une vibration particulière. Il me paraissait pourtant pas homme à jouer un rôle, à vouloir produire un effet ou à plaider. Georges Dreyfus a brièvement expliqué le déroulement de l'audience. Ibarrategui a baissé la tête en signe d'assentiment. Lorsqu'il a répondu au président qu'il n'avait aucun besoin d'interprète, nous nous sommes aperçus que son français était le nôtre, sans aucune trace d'accent, et cela a ajouté encore au trouble diffus, inexprimable, que je crois nous ressentions tous. Y ayant été invité par le président, selon l'usage, j'ai lu mon rapport, à la fin duquel j'ai proposé de rejeter la requête de Javier Ibarrategui. Il m'a regardé longuement, sans colère et même sans agacement. À la demande du président, il s'est levé pour présenter ses observations. Il allait donc se défendre lui-même. C'était fréquent ce temps-là. Il parlait lentement, avec dignité. Il a commencé par remercier à travers nous la France de l'avoir accueilli pendant ces 10 dernières années. Il a ajouté avec une ironie imperceptible qu'elle y avait du mérite, puisque l'administration aurait pu considérer que les actes violents auxquels il avait participé lui interdisaient de bénéficier de la Convention de Genève. Il s'est réjoui de la chute du franquisme. Puis il y a eu un silence, et d'une voix plus sourde, il nous a dit que les polices parallèles étaient toujours actives et qu'il serait très probablement exécuté s'il rentrait en Espagne. Il a ajouté que si nous rejetions sa demande, il y rentrerait cependant, qu'il n'avait pas l'intention de vivre en France une vie clandestine, sans droit, toujours à errer, à se cacher de la police, qu'il irait au-devant de son destin. Quand il s'est tu, Il y a eu un long silence. Son propos avait porté. Nous étions comme hésitants. Ce sont des moments où tout paraît se jouer. Nous lui avons posé des questions. Georges Dreyfus lui a demandé de préciser ses craintes. Après tout, il s'était tenu éloigné en France de toute activité politique et le dossier en faisait foi. Il avait désapprouvé l'assassinat de l'amiral Carrero Blanco. Cela ne faisait pas de lui une cible de premier ordre. Il lui a simplement répondu qu'il s'agissait d'un très vieux combat, d'un combat à mort, où personne ne pouvait compter sur l'oubli ou le pardon, que les ancêtres des groupes antiterroristes de libération, les fameux GAL, s'appelaient les guerrieros du Christ-Roi. L'assesseur nommé par l'administration a cité les promesses d'amnistie du gouvernement espagnol. Il a haussé les épaules sans répondre. Le président lui a demandé s'il voulait conclure. En me regardant, il a dit qu'il ne souhaitait pas, s'il venait à être assassiné, que quiconque se sente responsable de sa mort. Je sais à présent qu'il était sincère. Mais sur le moment, cette phrase nous a braqués contre lui. C'était comme une gifle que nous ne jugions pas méritée, un chantage moral. Il inclinait la tête devant nous et est sorti sans se retourner. Le délibéré a été court et technique, du moins au début. Pendant quelque temps, chacun a fait un effort pour rester au droit. Nous n'avons pas parlé de nos impressions de l'audience. La dernière phrase d'Ibarrategui avait jeté un froid. Le président, l'assesseur, nommé par l'administration et moi, étions pour le rejet. Alors la grosse dame du Haut Commissariat pour les réfugiés a pris fait et cause pour Ibarrategui de manière inattendue. Elle s'était renseignée et étalait des papiers devant elle, dans le plus grand désordre. Les phrases mal faites se bousculaient dans sa bouche. Les GAL étaient puissants. Les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur espagnol n'avaient pas changé. Ils avaient même des complicités en France. On y avait assassiné des informateurs de la DST, jusque dans le petit Bayonne, et le travail des juges français s'était trouvé paralysé par des obstacles invisibles. Elle était secouée par une indignation que nous ne lui avions jamais connue. Georges Dreyfus resta silencieux un moment, comme pour laisser toute cette émotion se dissiper. Puis, en quelques phrases brèves, il nous dit qu'il ne nous voyait pas, à nous quatre, rue de la Verrerie, par un beau matin de printemps, condamner le nouveau gouvernement démocratique espagnol. À cette ironie, qui ne lui était pas habituelle, j'eus l'impression fugitive qu'il ne s'était pas résolu si facilement cette décision. Je fus tout près de lui demander s'il était sûr du choix que nous allions faire. J'étais rassurée qu'il eût pris la même position que moi et frappée par cette hésitation que j'avais cru deviner. Cette hésitation-là était, dans sa cause, que je croyais connaître ce qui me faisait aimer et respecter Georges Dreyfus. Mais il me demanda de lire l'arrêt que j'avais préparé et je m'exécutai. Le président modifia une phrase et nous signâmes tous. La lèvre inférieure de la dame du Haut Commissariat aux réfugiés tremblait pendant qu'elle apposait sa signature et nous nous séparâmes après avoir jugé quelques autres cas. Je me souviens que ce jour-là, nous avons accordé le statut de réfugié à un Zaïrois dont nous devions découvrir ensuite qu'il s'était présenté déjà 3 fois à la commission sous des identités différentes. Il avait un beau talent d'acteur et revendait ensuite, à un prix abordable, le précieux papier à ses compatriotes.
De matinada en trucat, sonó el replà de l'escala. La mare, quan surt a obrir, porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill, que no és aquí, s'ha dormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllar. Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
Quelques semaines plus tard, rentrant d'un voyage et revenant à Paris, je descendis à pied, sans trop savoir pourquoi, de la gare de l'Est vers la gare de Lyon. Je n'avais pas lu de journaux français depuis longtemps et j'en achetai une brassière au kiosque, boulevard Diderot. Je m'assis pour les lire à la devanture du café de l'Institut. Nous étions le 5 septembre. J'ai pris d'abord Libération, y lisant le récit de la visite du soviétique Gromyko, la description du retrait partiel des Israéliens du Liban, un article sur le cyclisme, un autre où Edmond Maire s'interrogeait sur l'avenir du syndicalisme. Ces nouvelles d'inégale importance sont restées également gravées dans ma mémoire. Je me sentais désœuvré et vacant. Je commandai une seconde bière et machinalement, en attendant qu'elle me soit servie, je repris le journal que j'avais lu. Un entrefilet dont les pages internationales m'avaient échappé. Il était titré « Assassinat à Pampelune ». Le militant basque Javier Ibarrategui a été assassiné hier à midi sur la place Saint-Nicolas à Pampelune par deux tueurs à moto. Il a reçu 4 coups de revolver et est mort avant l'arrivée des secours. Figure de second plan mais très respectée du nationalisme basque, il avait cessé toute activité militante à compter de son exil en France en 69. Sa condamnation de l'exécution du dauphin désigné de Franco, l'amiral Carrero Blanco en 73, avait soulevé de violentes polémiques dans les milieux nationalistes. Javier Ibarrategui faisait partie de ces Basques auxquels l'administration française avait, sur ordre de Giscard d'Estaing, retiré le statut de réfugié, justifiant cette décision par le retour de l'Espagne à la démocratie. Dans les milieux informés, on attribue la responsabilité de cet assassinat, comme de nombreux autres semblables, aux groupes antiterroristes de Libération. Ces groupes continueraient de bénéficier de soutiens puissants au sein du ministère de l'Intérieur espagnol. À l'automne, j'ai envoyé ma lettre de démission. 10 ans plus tard, à l'occasion d'un voyage professionnel, je suis allée dans le Pays basque. Ayant pris quelques jours de congé, je suis descendue vers Loyola et la vallée de Sestoa. Javier Ibarrategui est enterré au cimetière de Sestoa. Sa tombe est régulièrement fleurie. J'ai vu la ferme qu'il avait habitée. Au-dessus de la porte, une main anonyme a gravé dans la pierre, en basque, une inscription qui rappelle son engagement. Me rappelant ce que le vieux gardien de la morgue m'avait appris du chemin des morts, j'ai fait le parcours de la ferme à la tombe. Mais plusieurs chemins étaient possibles, et je ne saurais jamais si j'ai emprunté le bon. 30 ans ont passé. J'ai mené ma vie d'homme, j'ai payé mon dû. Le souvenir d'Ibarrategui ne m'a jamais laissé en repos. Il ne s'est pas passé un jour sans que je le revoie, debout, devant nous, rue de la Verrerie, sans que j'entende cette voix sèche qui parlait notre langue et qui nous condamnait. Plusieurs personnes que j'aimais sont mortes, et leur apparence, malgré tous mes efforts, s'est effacée de ma mémoire. Javier Ibarrategui est resté, comme pris dans des glaces éternelles. La faute a des pouvoirs que l'amour n'a pas. Je ne sais pas comment s'achèvera ce long compagnonnage. Ibarrategui était là quand j'ai prêté le serment d'avocat, revenant au droit après un long détour, un peu perdu dans la première chambre de la cour d'appel de Paris. Il était là quand j'ai plaidé pour la première fois, puis à chaque procès gagné, à chaque procès perdu, à chaque fois que ma lâcheté ou le désir de plaire me poussait aux accommodements de l'audience et à reculer face au juge, il était là, dans mon dos, pour me pousser à parler fort, sans rien céder, moi qui n'aime guère combattre. Il sera là quand je rangerai ma robe noire, ayant gagné mon silence après tant de paroles dites. J'espère qu'il me laissera mourir seul, mais que je le retrouverai de l'autre côté. Bayonne, avril-mai 2012.
Serenament quan ve l'onada acaba i potser en el deixar-se vèncer comença la platja enamorada, no sap l'espera llarga i obre els braços, no fos cas. L'onada avui volgués quedar. Així només em deixo
Cher Dieu, moi je ne fais plus plaisir. Depuis ma greffe de moelle osseuse, je sens bien que je ne fais plus plaisir. Quand le docteur Düsseldorf m'examine le matin, le cœur n'y est plus, je le déçois. Il me regarde sans rien dire, comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliqué, moi, à l'opération. J'étais sage, je me suis laissé endormir, j'ai eu mal sans crier, j'ai pris tous les médicaments. Certains jours, j'ai envie de lui gueuler dessus, de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur Düsseldorf, avec ses sourcils noirs, qu'il a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge. Plus le docteur Düsseldorf se tait avec son œil désolé, plus je me sens coupable. J'ai compris que je suis devenu un mauvais malade, un malade qui empêche de croire que la médecine, c'est formidable. La pensée d'un médecin, c'est contagieux. Maintenant, tout l'étage, les infirmières, les internes et les femmes de ménage me regardent pareil. Ils ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur. Ils se forcent à rire quand je sors une blague. Vrai, on rigole plus comme avant. Il n'y a que Mamie Rose qui n'a pas changé. À mon avis, elle est de toute façon trop vieille pour changer. Et puis elle est trop Mamie Rose aussi. Mamie Rose, je te la présente pas, Dieu. C'est une bonne copine à toi, vu que c'est elle qui m'a dit de t'écrire. Le problème, c'est qu'il n'y a que moi qui l'appelle Mamie Rose. Donc, faut que je fasse un effort pour voir de qui je parle. Parmi les dames en blouse rose qui viennent de l'extérieur passer du temps avec des enfants malades, c'est la plus vieille de toutes. C'est quoi votre âge, Mamie Rose? Tu peux retenir les nombres à 13 chiffres, mon petit Oscar? Oh, vous charriez! Non, il ne faut surtout pas qu'on sache mon âge ici, sinon je me fais chasser et nous ne nous verrons plus. Pourquoi? Je suis là en contrebande. Il y a un âge limite pour être dame rose, et je l'ai largement dépassé. Vous êtes périmée? Oui. Comme un yaourt? Oui. Chut! Ok, je dirai rien. Elle a été vachement courageuse de m'avouer son secret. Mais elle est tombée sur le bon numéro. Je serai muet, même si je trouve étonnant, vu toutes les rides qu'elle a comme des rayons de soleil autour des yeux, que personne ne s'en soit douté. Une autre fois, j'ai appris un de ses autres secrets. Et avec ça, c'est sûr, Dieu, tu vas pouvoir l'identifier. On se promenait dans le parc de l'hôpital et elle a marché sur une crotte. Merde! Mamie Rose, vous dites des vilains mots. Oh, toi le môme, lâche-moi la grappe. Un instant, je parle comme je veux. Oh, Mamie Rose, et bouge-toi le cul, on se promène là. On ne fait pas une course d'escargot. Quand on s'est assis pour sucer un bonbon sur un banc, je lui ai demandé « Comment se fait-il que vous parliez si mal ?»« Des formations professionnelles, mon petit Oscar. » Dans mon métier, j'étais foutu si j'avais le vocabulaire trop délicat. Et c'était quoi votre métier? Tu vas pas me croire. Je vous jure que je vous croirai. Catcheuse, je vous crois pas. Catcheuse, on m'avait surnommée l'étrangleuse du Languedoc. Depuis, quand j'ai un coup de morosité et qu'elle est certaine que personne peut nous entendre, Mamie Rose me raconte ses grands tournois. L'étrangleuse du Languedoc contre la charcutière du Limousin. Sa lutte pendant 20 ans contre Diabolica Sinclair, une Hollandaise qui avait des obus à la place des seins. Et surtout, sa coupe du monde contre Oula Oula, dite la chienne de Buchenwald, qui n'avait jamais été battue, même par Cuisse d'Acier, le grand modèle de Mamie Rose quand elle était catcheuse. Moi, ça me fait rêver ces combats. Parce que j'imagine ma copine, comme maintenant sur le ring, une petite vieille en blouse rose, un peu branlante, en train de foutre la pâtée à des ogresses en maillot. J'ai l'impression que c'est moi. Je deviens le plus fort. Je me venge. Cher Dieu, si tu dis mourir dans un hôpital, personne n'entend. Tu peux être sûr qu'il va y avoir un trou d'air et qu'on va parler d'autre chose. J'ai fait le test avec tout le monde, sauf avec Mamie Rose. Alors ce matin, j'ai voulu voir si, elle aussi, elle devenait dure de la feuille à ce moment-là. Mamie Rose, j'ai l'impression que personne ne me dit que je vais mourir. Elle me regarde. Est-ce qu'elle va réagir comme les autres? S'il te plaît, l'étrangleuse du Languedoc, résiste et conserve tes oreilles. Pourquoi veux-tu qu'on te le dise si tu le sais, Oscar? Ouf, elle a entendu. J'ai l'impression, Mamie Rose, qu'on a inventé un autre hôpital que celui qui existe vraiment. On fait comme si on ne venait à l'hôpital que pour guérir. Alors qu'on y vient aussi pour mourir. Tu as raison, Oscar. Et je crois qu'on fait la même erreur pour la vie. Nous oublions que la vie est fragile, friable, éphémère. Nous faisons tout semblant d'être immortels. Elle est ratée, mon opération, Mamie Rose. Mamie Rose n'a pas répondu. C'était sa manière à elle de dire oui. Quand elle a été sûre que j'avais compris, elle s'est approchée et m'a demandé sur un ton suppliant. Je n'étais rien dit, bien sûr. Tu me le jures? Juré. On s'est tu un petit moment, histoire de bien remuer toutes ces nouvelles pensées. Si tu écrivais adieu, Oscar.
Ah non, pas vous, Mamie Rose.
Quoi, pas moi?
Pas vous? Je croyais que vous n'étiez pas menteuse.
Mais je ne te mens pas.
Alors pourquoi vous me parlez de Dieu? On m'a déjà fait le coup du Père Noël. Une fois, ça suffit.
Oscar, il n'y a aucun rapport entre Dieu et le Père Noël.
Si, pareil. Bourrage de crâne et compagnie.
Est-ce que tu imagines que moi, une ancienne catcheuse, 160 tournois gagnés sur 165, dont 43 par KO, l'étrangleuse du Languedoc, je puisse croire une seconde au Père Noël?
Non.
Eh bien, je ne crois pas au Père Noël, mais je crois en Dieu, voilà. Évidemment, dit comme cela, ça changeait tout. Et pourquoi est-ce que j'écrirais à Dieu? Tu te sentirais moins seul.
Moins seul? Avec quelqu'un qui n'existe pas?
Fais-le exister. Elle s'est penchée vers moi. Chaque fois que tu croiras en lui, il existera un peu plus. Si tu persistes, il existera complètement. Alors, il te fera du bien. Qu'est-ce que je peux lui écrire? Livre-lui tes pensées. Des pensées que tu ne dis pas, ce sont des pensées qui pèsent, qui s'incrustent, qui t'alourdissent, qui t'immobilisent, qui prennent la place des idées neuves et qui te pourrissent. Tu vas devenir une décharge à vieilles pensées qui puent si tu ne parles pas.
Ok. Et puis à Dieu, tu peux lui demander une chose par jour.
Attention, une seule.
Il est nul, votre Dieu, Mamie Rose. Aladdin, il avait droit à 3 vœux avec le génie de la lampe.
Un vœu par jour, c'est mieux que 3 dans une vie, non?
Ok, alors je peux tout lui commander? Des jouets? Des bonbons? Une voiture?
Non, Oscar. Dieu n'est pas le Père Noël. Tu ne peux demander que des choses de l'esprit.
Exemple?
Exemple, du courage, de la patience, des éclaircissements.
Ok, je vois.
Et tu peux aussi, Oscar, lui suggérer des faveurs pour les autres.
Un vœu par jour, Mamie Rose, faut pas déconner. Je vais d'abord le garder pour moi.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within.
sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking.
Voilà, alors Dieu, à l'occasion de cette première lettre, je t'ai montré un peu le genre de vie que j'avais ici à l'hôpital, où on me regarde maintenant comme un obstacle à la médecine, et j'aimerais te demander un éclaircissement. Est-ce que je vais guérir? Tu réponds oui ou non. C'est pas bien compliqué, oui ou non. Tu barres la mention inutile. À demain. Bisous. Oscar. PS, je n'ai pas ton adresse. Comment je fais? Cher Dieu, aujourd'hui j'ai 100 ans. Comme Amy Rose. Je dors beaucoup, mais je me sens bien. J'ai essayé d'expliquer à mes parents que la vie, c'était un drôle de cadeau. Au départ, on le surestime, ce cadeau. On croit avoir reçu la vie éternelle. Après, on le sous-estime. On le trouve pourri. Trop court, on serait prêt à le jeter. Enfin, on se rend compte que ce n'était pas un cadeau, mais juste un prêt. Alors on essaie de le mériter. Moi qui ai 100 ans, je sais de quoi je parle. Plus on vieillit, plus faut faire preuve de goût pour apprécier la vie. On doit devenir affiné, artiste. N'importe quel crétin peut jouir de la vie à 10 ou à 20 ans. Mais à 100, quand on ne peut plus bouger, faut user de son intelligence. Je ne sais pas si je les ai bien convaincus. Visite-les. Finis le travail. Moi, je fatigue un peu. À demain. Bisous, Oscar. Cher Dieu, 110 ans, ça fait beaucoup. Je crois que je commence à mourir. Oscar. Cher Dieu, le petit garçon est mort. Je serai toujours dame Rose, mais je ne serai plus mamie Rose. Je ne l'étais que pour Oscar. Il s'est éteint ce matin, pendant la demi-heure où ses parents et moi nous sommes allés prendre un café. Il a fait ça sans nous. Je pense qu'il a attendu ce moment-là pour nous épargner, comme s'il voulait nous éviter la violence de le voir disparaître. C'était lui, en fait, qui veillait sur nous. J'ai le cœur gros. J'ai le cœur lourd. Oscar y habite et je ne peux pas le chasser. Il faut que je garde encore mes larmes pour moi jusqu'à ce soir, parce que je ne veux pas comparer ma peine à celle insurmontable de ses parents. Merci de m'avoir fait connaître Oscar. Grâce à lui, j'étais drôle. J'inventais des légendes. Je m'y connaissais même en catch. Grâce à lui, j'ai ri. J'ai connu la joie. Il m'a aidé à croire en toi. Je suis pleine d'amour. Ça me brûle. Et il m'en a tant donné que j'en ai pour toutes les années à venir. À bientôt, Mamie Rose. PS. Les trois derniers jours, Oscar avait posé une pancarte sur sa table de chevet. Je crois que cela te concerne. Il y avait écrit « Seul Dieu a le droit de me réveiller ».
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Ce que j'ai failli perdre.
Vous étiez dans Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou laisser les volets fermés. Ce soir, vous avez entendu les voix de
James Fontaine,
Nathalie Vautier, Carole Battistini, Régis Dina, sur des textes de
Jean Giono, Solitude de la pitié, de François Sureau, Le chemin des morts, d'Éric Emmanuel Schmitt, Oscar et la Dame Rose, sur des musiques de Maria Delmar Bonnet, Oldaria, un chant basque, Louis Liache, Café Accordion, Jacques Brel, la bande originale de Mon oncle de Tati, Les fils de Tepu, La Bolduc, Billy Holiday, et le concerto numéro 23 pour oud et piano de Mozart. La musique d'un manège, Simon & Garfunkel, Jean Ferrat.
Prochaine émission.
La prochaine émission aura lieu le jeudi 25 octobre. Je remercie Christophe Becquereau pour la technique.
Ne pas oublier l'insondable sondier. Et puis, je vous remercie pour vos magnifiques lectures. Merci beaucoup, Carole. Bonsoir, Carole.
Bonsoir.
Merci beaucoup Régis Dina qui est venu nous lire un texte hyper touchant. Merci Régis, bonsoir.
Bonsoir et merci bientôt. À vous.
Et bonsoir Nathalie Vautier.
Bonsoir.
Son public était à la fois admiratif et gêné.